Bienvenue à notre première soirée pour démarrer notre année thématique, l'année sous la paix. Je suis vraiment très heureux de ce thème pour cette année, pas seulement parce que était validé par le pape Léon qui a décidé de parler de la paix, de sa première élocution le jour de son élection. On a découvert qu'à la Maison de la Parole, ils ont choisi le thème de cette année, le thème de la paix. Donc, soit tout le monde a copié sur nous, ou c'est peut-être l'Esprit Saint qui peut-être nous a soufflé et a soufflé pas chez nous le besoin de vivre davantage ce magnifique cadeau de la paix. Je suis aussi très heureux que ce soir, on va avoir la chance d'accueillir Jean-Guilhem Zéry, que vous connaissez tous, non? Jean-Guilhem. Inutile de faire une introduction très longue sur le parcours de Jean-Guilhem, que vous connaissez depuis ceux qui ont fait leur retraite après l'année de l'espérance. C'est le résumé qu'il nous donnait, condensé. De l'année, c'est juste magnifique. Et l'année dernière, c'est lui qui a aussi fait le grâce de faire la conférence d'introduction pour l'année de la gratitude. Et c'est grâce à Jean-Guilhem qu'on a découvert ce soir-là les trois R que vous connaissez tous maintenant. Vous vous souvenez ou pas? Reconnaître, ressentir, remercier. Et donc Jean-Guilhem, qui est psychanalyste, aussi auteur de beaucoup de livres, et aussi coach, et aussi paroissien. Donc on a la grâce de l'avoir avec nous ce soir. Et si on réfléchit bien, la paix peut être un peu considérée comme le meilleur cadeau qu'on peut recevoir ou donner. Tu vois, quelqu'un même qui souffre et tu dis, je suis en paix, t'inquiète pas. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ou quelqu'un qui prend des décisions difficiles dans sa vie, ça va, je suis en paix avec ma décision. Ou même quelqu'un qui dit, je suis très heureux parce que je viens de faire la paix avec ma sœur, mon beau-frère, mon ex-mari, si c'est le cas. Tu vois? Si on pourrait avoir cette paix, et comme curé, le meilleur cadeau que je veux souhaiter pour vous, c'est qu'on soit tous le cœur en paix. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, ce qu'on est en train de vivre, mais si on peut pas seulement accueillir, renouveler cette paix, et de le faire grandir, et que cette paix demeure en nous, après cette année de la gratitude, je trouve que c'est une suite logique, qui va faire beaucoup de bien à nous tous. Donc que ce soit grâce à Jean-Guilhem, on va entrer plus profondément dans la paix du Christ, source de toute paix véritable, et la paix le plus puissante qui existe. Donc, sans plus d'introduction, je laisse la parole à Jean-Guilhem. Il y aura un temps pour les questions à la fin. Ok? Bonne conférence.
Merci, Père Richard, de cette introduction et de votre confiance. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver. Pour rentrer avec vous dans cette année que nous offre le Père Richard, dans cette année sur la paix. Nous allons cheminer ensemble vers cette paix que Dieu veut nous donner. Alors, je vais commencer cette conférence par une confidence, une sorte de confidence. Préparer cette conférence ne m'a pas mise en paix, mais m'a donné la paix. Voilà. Alors, cette affirmation peut paraître contradictoire, paradoxale, parce que j'énonce en fait, à travers ça, deux éléments essentiels de mon propos, c'est que derrière le mot paix se cache en réalité deux réalités. Une paix humaine, on pourrait dire une paix psychologique, et une paix que j'appelle suprahumaine, au sens qui dépasse l'homme. Et cette paix suprahumaine, eh bien, vous l'aurez compris, qui est une paix spirituelle. Voilà. Et donc, quand je dis que préparer cette conférence ne m'a pas mise en paix, je parle de pas mise en paix humaine. C'est-à-dire qu'elle m'a demandé du travail, des circonvolutions, du souci, et même maintenant, je suis un petit peu stressé, et je ne sais pas d'ailleurs ce que vous allez faire de cette conférence, si vous allez y trouver quelques nourritures. En résumé, cette conférence ne m'a pas rendu ni tranquille, ni serein, et ne m'a pas vraiment mis dans la zénitude. Donc dans ce sens, préparer cette conférence ne m'a pas mis dans la paix humaine. Mais elle m'a donné de la paix suprahumaine en l'occurrence, de la paix spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a fait mieux comprendre ce qu'est la paix de Dieu. Quelle est cette paix que le Christ nous propose ? Et donc en résumé, préparer cette conférence, si ça ne m'a pas mis dans la zénitude et la sérénité, comme ça, voilà, m'a fait entrer davantage dans le mystère de Dieu et de ce qu'il veut nous donner. Voilà, et donc quelque part j'y ai reçu en préparant cette conférence cette paix suprahumaine, cette paix spirituelle, cette paix voilà, qui nous dépasse. Alors, quelques éléments pour situer ces deux paix, l'une par rapport à l'autre. La paix humaine, comme le terme l'indique, est une paix d'origine humaine. Alors que la paix suprahumaine ne vient pas des hommes, elle est surnaturelle. La première, la paix humaine, elle est l'ordre de la tranquillité, de la sérénité. La seconde est plutôt de l'ordre du salut. La paix humaine, on sera dans un registre, une dialectique qui sera la paix versus le conflit. Quand on parlera, on sera un petit peu dans le lieu de la paix suprahumaine, on sera plutôt dans le registre vie éternelle versus mort. Et peut-être la différence la plus importante entre ces deux types de paix, entre la paix humaine et la paix spirituelle, et c'est ça que je vais essayer de dérouler un petit peu dans mon propos, c'est que la paix humaine, la paix psychologique, elle est à construire. Et ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. La paix suprahumaine, la paix que Dieu veut nous donner, elle est à accueillir. Et notre responsabilité est de l'accueillir. Donc la paix humaine est à construire, la paix suprahumaine est à accueillir. Donc, histoire quand même qu'on ne se perde pas trop ensemble ce soir, je vous dis un petit peu que la structure de mon propos, ça si jamais vous perdez, vous pourrez vous rattraper, il y aura une première partie assez courte sur la paix humaine. Plus pour nous aider à la distinguer de la paix suprahumaine, un petit peu plus en détail que je ne le fais là. Et puis les trois quarts de mon propos seront consacrés à la paix suprahumaine, à la paix que Dieu nous donne et veut nous donner toujours davantage, celle vers laquelle nous cheminerons ensemble tout au long de l'année. Voilà. Vous restez ? Oui, ok. Alors, la paix humaine. Donc, en ce début du XXIe siècle, il y a deux façons classiques de définir cette paix. Psychologique, je ne parlerai pas du tout de la paix géopolitique ou de la paix sociale, hein. Je me concentre sur la paix intérieure et donc là en l'occurrence la paix humaine psychologique. Il y a deux définitions, l'une négative et l'autre positive. La manière négative de parler de la paix humaine, c'est en absence. Donc c'est l'absence de tension, c'est l'absence de conflit, c'est l'absence de guerre et donc elle s'oppose à l'agitation et au trouble. Les synonymes de cette paix psychologique, ça sera réconciliation, concorde, sérénité. Voilà, on est dans cet ordre-là. Et puis la définition positive de cette paix humaine, psychologique, ça sera repos, sérénité, tranquillité, zénitude. Vous rappelez que l'année dernière, au moment, dans la conférence de lancement sur la gratitude, j'avais passé pas mal de temps à vous rapporter les études scientifiques qui avaient été faites sur la gratitude et les bénéfices de la gratitude, à la fois sur notre organisme, mais aussi sur notre mental Et j'avais détaillé même certaines études conduites par ce grand scientifique Robert Emmons. Bon, donc là, j'ai fait le choix de détailler beaucoup moins, encore une fois, pour consacrer plutôt à la paix spirituelle. Mais sachez qu'il y a là aussi de très nombreuses études scientifiques, médico-psychologiques en l'occurrence, qui ont été conduites sur la paix et sur l'impact de la paix sur... Voilà, et donc sur deux points, donc en l'occurrence sur des bénéfices qu'apporte la paix humaine, la paix psychologique. Je ne détaille pas, mais sachez que plus on est en paix humaine, plus on est en paix psychologique, eh bien plus ça a des impacts positifs sur le corps. Je ne détaille pas, relâchement musculaire, diminution de la tension, diminution du rythme respiratoire. Ça a aussi des effets sur le mental, puisque ça diminue l'anxiété, les troubles dépressifs et les rechutes dépressives. Ça a aussi des bénéfices sur la gestion des émotions. Et en l'occurrence, plus on est en paix, j'allais dire chroniquement, moins on est dans des surréactions ou dans l'impulsivité. Il est aussi rapporté, en tout cas preuve scientifique à l'appui, que, même si c'est tout ceci très intuitif, mais c'est intéressant que la science aujourd'hui essaye d'explorer tout ça, comme si elle avait besoin de se convaincre que, en l'occurrence, la paix psychologique a aussi des bénéfices positifs sur nos relations, et que ça a tendance à, plus on a une vie apaisée, plus on a tendance à établir des relations humaines renforcées et plutôt solides. Mais la paix a aussi des bénéfices sur la performance de nos actions. On le voit par exemple, c'est la raison pour laquelle les athlètes de haut niveau, en fait, avant une compétition, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans leur bulle et ils essayent de retrouver de la sérénité, du calme, donc ils méditent, ils font de l'hypnose, de la visualisation, de l'imagination, peu importe la méthode et la technique, mais ce qu'ils veulent trouver, c'est de la paix humaine, de la sérénité. Pourquoi? Parce que plus on est dans la sérénité, meilleures sont les performances, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient cognitives. Rappelez-vous de cela si vous avez une échéance importante. Et puis, voilà, donc tout ça pour dire que la paix, et c'est largement documenté, cette paix humaine, on a raison de la rechercher, d'y aspirer, parce que finalement elle nous apporte beaucoup de bénéfices. Mais je vais apporter une petite complexification nous aspirons à la paix parce que c'est bon pour nous, etc. Voilà. C'est qu'en réalité, cette paix humaine, si on en a une représentation qui est, j'allais dire, binaire, soit je suis en paix, soit je suis en tension, soit c'est la paix, soit c'est la guerre, soit c'est... Voilà. C'est très confortable à penser, c'est très confortable à se projeter là-dedans, mais ça a assez peu de rapport avec la réalité. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que nous sommes habités et de paix et de conflit, et de sérénité et de tension. C'est peut-être une expérience que nous éprouvons, que nous avons éprouvée, d'être traversés par ces deux réalités, ces deux mouvements, mais c'est ce que nous montre finalement ce qu'essaye de nous dire la mythologie, c'est ce que nous montre l'histoire, c'est ce que nous démontrent les sciences psychologiques et la psychanalyse en particulier, c'est qu'en réalité nous sommes habités par une dualité. Nous sommes habités autant par une aspiration à la paix que par ce qu'on appelle, la psychanalyse, des pulsions de violence, des pulsions de conflit, en fait, par cette dualité. Pour le dire autrement, ce que disent les psychologues, ce qu'on lit dans la mythologie, ce qu'on peut lire aussi dans l'histoire, c'est que finalement, l'antipaix, ce que j'appelle l'antipaix, la non-paix, est aussi inhérente à l'âme humaine que la paix ou le désir de paix. Alors, on peut se dire, c'est vrai pour certaines personnes, mais moi, en fait, je ne suis habité que par le désir de paix. Eh bien, ça veut dire juste que la dimension d'anti-paix ou de non-paix vous est juste, à l'instant, inconsciente. Et je ne parle pas forcément d'aller donner un coup de poing à son voisin, mais de choses qui peuvent être, évidemment, beaucoup plus futiles, beaucoup plus discrètes. Il me semble, en tout cas, je fais le choix de ne pas détailler cette dimension, que nous sommes habités autant par un désir de paix que par un désir de non-paix. Je ne le détaille pas, mais il me semble juste que c'est peut-être au fond ce sur quoi l'Église appelle notre attention au travers de ce concept de péché originel. Vous, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été très très à l'aise avec ce concept. L'idée de dire que finalement je porte des choses plutôt négatives, de l'ordre du péché, qui date d'ancêtres que j'ai jamais connus, je ne suis pas super confort avec ça. Mais enfin, la réalité, elle est quand même que, en tout cas moi, dans la vie de psy, de voir comment, et dans ma propre vie, comment nous sommes marqués, de fait, par ce qui s'est passé dans la vie de nos ascendants, directs, peut-être N+2, N+3. En fait, nous sommes marqués en fait, par les histoires, finalement, qui nous précèdent et dont nous sommes issus. Voilà. Pour le pire et pour le meilleur. Et donc, quelque part, je comprends cette notion de péché originel par l'âme humaine est habitée à la fois par un désir de vie, mais par quelque part, quelque chose de l'ordre du péché qui est quelque chose du désir de mort. L'Église, en fait, utilise ces mots, de mon point de vue, pour dire ce que, bien plus tard, notamment les sciences psychologiques, ont essayé d'approcher. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que il me semble que nous avons un deuil à faire, qui est le deuil d'une paix humaine, je suis toujours dans la paix humaine, hein, d'une paix humaine, d'une paix psychologique, qui existerait d'une façon définitive, radicale et durable. Parce qu'en nous, il y a en permanence, nous sommes habités de façon plus ou moins consciente, plus ou moins manifeste, explicite, par cette dualité. Dire ça, en fait, c'est plus un appel à la vigilance et du coup à l'action. Et je donnerai à l'action pour, ben, du coup, comment avancer vers cette paix humaine, cette paix intérieure dans son versant psychologique. Là aussi, je serai très rapide volontairement, ne m'en voulez pas, je vous avais prévenu au début, hein, je passerai très rapidement sur cette paix humaine. Je proposerai juste deux, ce qui me semble être deux piliers pour cette paix humaine, pour avancer, pour gagner dans cette paix psychologique, en ayant bien posé que oui, ça apporte des bénéfices, oui, on y aspire, et en même temps, on est traversé par des choses qui font qu'on va quand même aussi être tenté, aspiré vers la tension ou le conflit, c'est que la paix demeure donc toujours une possibilité. Et donc, deux piliers, me semble-t-il, je ne fais que là les nommer, voilà, nous n'avons pas le temps de les creuser. D'abord, quelque chose de l'entretien, un peu de... dans cet équilibre paix, anti-paix qui m'habite, qui nous traverse tous, quelque chose qui va créer un écosystème intérieur favorable à la paix. Donc créer un écosystème favorable à la paix psychique, et le deuxième pilier, c'est traiter les menaces de l'anti-paix pour éviter que, finalement, de l'inconfort, de l'altérité, de la différence se transforme en affrontement et en conflit. Peut-être pour être plus... concret sur créer un système d'abord hospitalier, un écosystème hospitalier à cette aspiration à la paix, il me semble qu'il y a d'abord un premier point qui est de poser des routines dans notre quotidien qui soient écologiques. Écologiques non pas au sens de la vertitude, d'écologie politique, mais écologie au sens qui respecte notre écologie intérieure. La sobriété est quelque chose qui est apaisant. L'ouverture aux autres, parce que ça me décentre, donc ça favorise la paix intérieure. La stabilité, l'organisation de son temps, relativement stable, je ne parle pas de rigidité, je parle de stabilité, et quelque chose là aussi qui va non pas produire de la paix, mais être favorable à une paix intérieure. Dans cet écosystème, il y a aussi une attention à cultiver sa vie intérieure. Et cultiver sa vie intérieure, ça va passer, de mon point de vue, par une juste attention à son corps. C'est-à-dire, quel rapport entre la vie intérieure et le corps ? Enfin, juste parce qu'en fait, on est corps, psychisme et esprit. On est une unité. Voilà. En tout cas, c'est ce que dit toute la tradition, notamment l'Église. Donc, un entretien juste de son corps. L'expression de la gratitude, qu'on a beaucoup travaillé l'année dernière, grâce au Père Richard. La gratitude, là aussi, c'est quelque chose qui va favoriser la paix psychologique. Et puis, évidemment, être attentif à des choses qui vont approfondir notre vie intérieure. Ça, c'est des choses, quelques pistes que j'ouvre, encore une fois, sans les détailler, qui peuvent constituer un écosystème favorable à cette espèce de sérénité psychologique. Et puis, il y a un deuxième pilier qui est en même temps, ben voilà, quand le désaccord arrive, quand l'inconfort arrive, quand la tension intérieure arrive, eh bien, comment je fais pour que ne pas en être envahi, pour que le conflit n'envahisse pas complètement ma vie, mon psychisme, mes relations, etc. Il me semble que là, il y a deux sous-axes. Le premier axe, premier sous-axe, c'est d'abord de faire la paix avec soi-même. Faire la paix avec soi-même. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire la paix avec les autres si on n'est pas un petit peu, un minimum, en paix avec soi-même? Voilà. Et ça, on peut parfois le faire seul. Parfois, ça nécessite d'être accompagné. Ça peut être un accompagnement spirituel, ça peut être un accompagnement psychologique, ça peut être du coaching, ça peut être une retraite, une session. Enfin, quelque chose qui va m'aider à faire la paix avec moi-même, avec l'image que j'ai de moi-même, avec des blessures, des fragilités, avec mon histoire, enfin, ainsi de suite. Et puis, deuxième sous-axe sur essayer de, encore une fois, éviter le passage de l'inconfort, la tension au conflit, à l'affrontement, qui est quelque chose de l'ordre d'apprendre à gérer un petit peu mieux les situations de tension. Et je dis bien d'apprendre parce que ça s'apprend. Ça s'apprend de gérer peut-être l'énervement de l'autre, gérer l'agressivité de l'autre. Ça s'apprend aussi de gérer ma propre agressivité envers l'autre. Voilà, et ça s'apprend, c'est juste ça. Voilà, il ne s'agit pas de passer les régressions de négociation des conflits, mais il s'agit peut-être d'avoir des bases voilà, qui peuvent nous aider à, en gros, passer de la tension à l'affrontement. Donc, en synthèse de cette partie, voilà, qui m'a occupé une quinzaine de minutes, c'est que la paix humaine relève, vous voyez, de la responsabilité de chacun d'entre nous. Et cette paix humaine, vous l'aurez peut-être perçue à travers mes rapides propos, elle est donc à construire. Et ça, c'est une responsabilité, j'allais dire quelque part, que Dieu a conférée à l'homme. Il a conféré une intelligence, il a conféré un cœur, une volonté, un discernement. Tout ça pour justement construire cette paix entre nous, cette paix humaine, cette paix relationnelle, cette paix psychologique. Alors, je ne vais pas plus loin sur cette paix humaine, c'est pour vous faire bien comprendre ce que je mets derrière, et quand même qui occupe une bonne partie de notre vie. Maintenant, je vais passer donc pour l'essentiel, pour tout le temps qui va, nous rester à la paix suprahumaine, cette paix spirituelle, cette vers laquelle nous allons cheminer ensemble tout au long de cette année. Et de fait, j'insiste beaucoup sur la responsabilité de l'homme dans cette paix humaine, mais en même temps que j'affirme ça, je pose que les seules ressources, alors de la loi de la politique pour ce qui est de la paix géopolitique sociétale, ou bien de gestion des conflits et de psychologie, en fait, arrive à des limites. Autrement dit, ces approches humaines ne suffisent pas, elles sont nécessaires pour la vie ensemble, mais elles ne suffisent pas à elles seules à assurer la paix profonde. La paix profonde. La paix humaine, elle provient d'une sécurité physique, matérielle, intellectuelle et émotionnelle. Et donc, c'est nécessaire et c'est heureux que nous disposions, voilà, de tous ces moyens pour essayer de... Mais il est important que la recherche de cette sérénité, de cet équilibre intérieur, n'endorme pas, et c'est un risque, je crois, aujourd'hui dans notre société, n'endorme pas notre vie spirituelle, et au risque, justement, d'oublier une autre paix, qui est la paix suprahumaine, qui est la paix que Dieu veut nous donner, et que nous avons donc à accueillir. Donc, si j'ai commencé par la paix humaine, c'est pour dire, elle est importante, c'est notre humanité. Mais attention à ce que, si je suis trop focus dessus, j'oublie cette paix suprahumaine que Dieu veut nous donner. Et cette paix-là, cette paix suprahumaine, qui est maintenant la seule dont je parlerai jusqu'à la fin de mon propos, nécessite d'entrer dans l'intelligence de Dieu. Ce que je veux dire par entrer dans l'intelligence de Dieu, c'est dans son projet et surtout dans son mode de relation avec nous. Voilà. Et c'est ça que je vais essayer... Ce sur quoi je vais essayer de mettre des mots qui forcément seront des mots totalement inadaptés et pas du tout évidemment à la hauteur. Donc cette paix suprahumaine, elle est donc, comme je le disais, surnaturelle et elle n'est pas tant à construire qu'à accueillir. Donc elle n'est pas là, cette paix que Dieu veut nous donner, pour faire de la gestion des conflits. Elle n'est pas là pour résoudre des conflits avec mon voisin ou avec mes copropriétaires. Cette paix suprahumaine, elle est là pour nous donner la vie de Dieu. Voilà. Et disons-le tout net, cette paix suprahumaine, cette paix-là nous vient de Jésus-Christ. Elle nous vient de Jésus-Christ. Alors je vous propose de l'explorer, cette paix suprahumaine, et d'entrer dans son mystère. Parce qu'elle reste un mystère. Pourquoi elle reste un mystère? Parce qu'elle nous vient de Dieu. Et que Dieu, voilà, nous dépasse. Et pour l'explorer, je rappelle là que le Christ était juif, profondément juif, pleinement juif, issu du peuple de l'attente. Et donc, pour comprendre ce qui se cache derrière le terme qui lui est attribué à Jésus, le prince de la paix, ou derrière tous les mots de paix qu'il a dit, enfin, qui nous sont rapportés dans l'Évangile, il me semble nécessaire d'explorer ce que ce mot de paix signifie dans la tradition hébraïque. Et vous allez voir que ça a assez peu de rapport avec le sens que l'on met derrière notre paix humaine, psychologique, ou même géopolitique. Du coup, là, dans mon propos, je dis ça là aussi pour essayer qu'on ne se perde pas trop, il y aura trois parties dans cette paix. Première partie, ça sera la paix dans les Écritures, dans le premier et dans le second testament. Ma deuxième partie, ça sera de voir comment le Christ et la paix s'entendent. Comment est-ce que lui, il vit la paix? Comment est-ce qu'il en parle? Et puis la troisième partie, ça sera les chemins pour avancer vers la paix. Ok? Alors, première partie, donc, la paix de l'Ancien Testament au Nouveau Testament jusqu'au Christ, quoi. Voilà. Alors, les visages de cette paix. Donc, comme je le disais, en fait, pour comprendre ce que le Christ met derrière le mot de paix, Christ étant profondément juif, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot paix en hébreu biblique en l'occurrence. Vous savez sûrement que le mot hébreu c'est shalom, et shalom qu'on traduit par paix, mais ceci est une simplification outrancière, c'est une réduction absolument coupable. Mais c'est comme ça, en même temps c'est pas grave, puisqu'on est là pour en parler. Parce qu'en réalité, en fait, c'est un terme polysémique, shalom. Polysémique, c'est-à-dire qu'en fait, il a plein de sens. Nous, on croit qu'il n'y a qu'un seul sens qui est la paix, mais pas du tout. En fait, il a plusieurs significations. Dans la traduction grecque de la Bible hébraïque, on traduit shalom par 25 mots. 25 mots. Donc, vous voyez, enfin, nous, avec notre petit shalom, c'est la paix, honnêtement, on est petits joueurs. 25 mots, ça dit quoi? Ça dit la complexité, ça dit le mystère, ça dit l'immensité de ce sur quoi ouvre cette paix que Dieu nous donne. Alors, trois caractéristiques saillantes à partir de ces, tous ces sens qu'il y a derrière le mot shalom. Première caractéristique, c'est que cette paix suprahumaine, cette paix que Dieu veut nous donner, donc qualifie de multiples réalités. Elle est à la fois présence, accomplissement, harmonie, salut, repos, transformation, complétude, transformation vers un mieux. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et shalom vient d'une racine qui veut dire plénitude, intégrité. Voilà. Alors, si je vous ai complètement perdu et que vous n'avez pas bien retenu, c'est normal. C'est normal, parce que c'est pour dire la complexité de ce qu'il y a derrière. Vous sentez que ça n'a plus grand rapport avec notre affaire de sérénité, de zénitude. On est dans plénitude, accomplissement, salut, transformation, quelque chose comme ça. La seconde caractéristique, c'est que cette paix shalom, dont il est question dans tout l'Ancien Testament, c'est un attribut strict, proprement divin. Un attribut proprement divin. Voilà, et on a dans certains livres, le livre des Juifs, Yahvé est seigneur de paix. Et toute la création aspire à la paix. La création, c'est nous, on aspire à la paix. Et la paix, c'est ça qui est le plus important, c'est que la paix fait partie de l'alliance que Dieu veut établir avec les hommes. Voilà. On trouve notamment ce verset, hein, « Mon alliance avec le peuple était vie et paix. » Mon alliance était vie et paix. Donc l'alliance que Dieu veut établir avec les hommes, c'est une alliance vie et paix. Donc, plein de réalités, un attribut proprement divin, et la troisième caractéristique, c'est que ce shalom est une bénédiction et donc une manifestation de la grâce divine. Voilà, c'est une bénédiction et une manifestation de la grâce divine. Alors, il y a plein de versets hein, qui, qui illustre ça, hein, que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Et cette paix, on le voit dans toute l'Écriture, elle engendre de la fécondité, du bien-être, de la prospérité, de la joie, point de suspension. Et vous voyez, en fait, elle peut produire tout ça parce qu'elle est, en même temps, voilà, accomplissement, salut, transformation, etc. Donc vous aurez compris que cette paix surnaturelle, cette paix que Dieu veut nous donner, n'est pas d'abord le contraire de la guerre. Elle est une grâce de plénitude, une grâce de restauration. C'est-à-dire qu'elle est, un, d'origine divine, et deux, donnée sans mérite. Ce qui est le propre de la grâce. La grâce est toujours donnée sans mérite. Voilà. Et l'Écriture nous apprend que Dieu aspire à donner cette paix-là à son peuple. Hein, on va trouver dans un verset d'un psaume, il y a, en fait, il y a une multitude de versets. Hein. Il annonce la paix pour ses peuples et ses amis, pour vous qu'ils reviennent à lui de tout leur cœur. Voilà. Ou bien dans Jérémie, je sais moi le dessein que j'ai sur vous, dessein de paix et non de malheur, ainsi de suite. Pour résumer, en fait, ce petit paragraphe, c'est qu'on peut dire que du côté de Dieu, cette paix shalom, elle est une salutation, une bénédiction, une protection, une manifestation de sa fidélité et de sa présence, quelque chose de l'ordre du salut et de la plénitude. Ça, c'est du côté de Dieu. Et cette paix shalom, à notre place à nous, eh bien, comme je le disais, elle va nécessiter juste qu'en fait qu'on l'accueille. Mais dans le juste qu'on l'accueille, ça va nécessiter une conversion intérieure, une préparation, une transformation de mon âme pour que je puisse accueillir effectivement ce don incroyable de Dieu qui veut me donner pas la paix, sérénité psychologique, mais cette paix, transformation, salut, plénitude. C'est bon à ce stade ? Oui, je suis un peu moins stressé si j'entends quelques oui. Bon. Donc ça, c'était comment, c'est quoi cette paix shalom, voilà, dont il est question dans l'Ancien Testament. Deuxième point, c'est comment s'incarne cette paix shalom dans le Christ. Alors, donc tout l'Ancien Testament, vous le savez, annonce l'avènement d'un Messie, et son règne sera précisément un règne de paix, au sens où nous venons de la qualifier, de plénitude venant gratuitement, gracieusement de Dieu. Voilà. Et tout l'Ancien Testament est traversé par cette promesse de paix qui trouve donc son accomplissement dans la personne de Jésus. Et de fait, on le voit dans le Nouveau Testament, dès le début de l'Évangile, au moment de la naissance de Jésus, il est fait mention de la paix. Ça commence par « Gloire à Dieu, paix aux hommes de bonne volonté ». Donc, paix aux hommes de bonne volonté, hein, rappelez-vous, c'est pas zénitude aux hommes de bonne volonté. Hein, c'est au contraire plénitude, salut, hein, aux hommes de bonne volonté. Si on va maintenant au bout de l'histoire, le testament spirituel de Jésus, hein, c'est le don de la paix. Fin de l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je vous laisse la paix, mais c'est ma paix que je vous donne. » On y reviendra. Et troisième temps, donc on voit sa naissance, son testament spirituel avant sa mort, et puis après sa résurrection. À chaque fois qu'il rencontrera ses disciples, une fois ressuscité, le Christ les saluera par ce don de la paix et dira « Paix à vous ». C'est fort ça, c'est très très fort. Ressuscité, première parole qu'il adresse à ses disciples, c'est « paix à vous voilà. ». Et si, quand l'histoire se continue avec la mission des apôtres, la mission apostolique, eh bien, la mission s'inaugure toujours par le don de la paix. Hein, en quelques maisons que vous entriez, dites d'abord « paix à cette maison hein, ». C'est comme ça que la prescription que Jésus fait à ses disciples. Quand vous partez en mission, d'abord « paix à cette maison ». Et donc, on voit que dans l'Écriture, dans l'Évangile, l'action pour la paix n'est jamais dissociée de l'annonce de l'Évangile. L'action de la paix n'est jamais dissociée de l'annonce de l'Évangile. C'est intéressant parce que dans le chemin qui nous sera proposé cette année, il y aura des matinées d'évangélisation, enfin d'annonce, tout ça. Et de fait, on trouve exactement la même chose reproduite, prolongée dans les Actes des apôtres, hein, ou dans les lettres de l'apôtre Paul, qui appliquera cette recommandation à la lettre, alors à la fois dans toutes ses lettres, sous ses habits, mais à la lettre, puisqu'il commence toutes ses lettres par cette salutation, Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc oui, la paix, c'est quelque chose de central qui est une salutation systématique quand les apôtres s'adressent finalement à leurs interlocuteurs. Et donc tous les apôtres disaient toujours à leurs disciples que la grâce et la paix vous soient données de plus en plus. Ou bien on trouve dans l'épître de Jean que la paix soit avec toi, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en synthèse, on peut dire que cette paix spirituelle, cette paix que Dieu veut nous donner, ne se définit pas d'abord comme l'absence de conflit, mais elle est de l'ordre d'une plénitude. Elle est un don proprement divin, gratuitement accordé et qui est toujours immérité, évidemment. Cette paix shalom n'est pas à hauteur d'homme. Donc elle est don de Dieu, signe de sa présence dans le cœur de celui qui l'accueille. Je sais que je me répète sur la dimension d'accueillir, mais en fait, c'est ça le travail que nous avons à faire pour cette paix-là. Ce n'est pas la construire avec nos bras musclés, notre compétence. Elle, cette paix-là, c'est de l'accueillir. Voilà. Avec mes mots, moi, je dirais que cette paix a la saveur de Dieu. Elle est un peu son goût et son empreinte. Alors là, on vient de voir la paix dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament au Christ. Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie, qui est donc le Christ et la paix. Le Christ et la paix. Alors, on va le poser, on va se dire les choses. De fait, les paroles et les prises de position de Jésus sur la paix sont pour le moins contradictoires. Et en tout cas, pour moi, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, il n'est pas toujours bien facile de m'y repérer. Bon, le Christ, il est Seigneur de paix, donc je comprends aisément les prescriptions qu'il peut faire du type « Je vous dis de ne pas riposter aux méchants, et si quelqu'un te gicle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. » Ça, je me dis que okay, ça colle avec quelqu'un qui est orienté paix. Voilà. « À Pierre, il rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Ça, ok. Je suis pas surpris en entendant l'appel à aimer ses ennemis. Voilà. Je trouve que c'est tout à fait cohérent avec un homme de paix que de proclamer « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu voilà. ». Et de fait, les premiers martyrs dans les tout premiers siècles vivaient ce que je pourrais appeler pacifisme évangélique jusqu'à leur mort. Donc jusque-là, pas de problème. Là où ça devient un peu plus compliqué pour moi en tout cas, c'est que le Christ semble être à d'autres moments un homme de conflit et de division. On va l'entendre dire « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ?» Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. C'est en Luc chapitre 12, 51, pour ceux qui doutent que Jésus a dit ça. Et puis après, il poursuit en parlant de la division au sein des familles. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Pour quelqu'un qui est le seigneur de paix, ça devient compliqué. En Matthieu, chapitre 10, 34, il confirme qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Voilà. Et en même temps qu'il annonce sa mort à ses disciples, il distingue bien pour eux les manières de donner la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais enfin, ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Et puis, il précise que cette paix n'est pas toute puissante, au sens « peut ne pas être reçue hein, ». Auquel cas, le Christ, on le retrouve là aussi dans Matthieu 10, demande alors à ses disciples de se retirer. Donc je cite, « En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. » Et c'est toujours une salutation. Voilà. On commence toujours par la paix. « Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Secouez la poussière de vos pieds et... » Voilà. Alors, tout ça pour dire que, vous voyez, c'est pas si simple que ça, et ça vient quand même nous bousculer, cette affaire-là. Alors, je vous propose de frotter un petit peu au Christ, à sa parole, et à ce qui apparemment constitue des contradictions. Comment le même homme, Jésus en l'occurrence, peut-il à la fois proclamer « heureux les artisans de paix » pour ensuite dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée voilà. Comment peut-il nous demander d'aimer nos ennemis et en même temps nous annoncer qu'il est venu séparer les familles ? Alors, d'abord une réaction, ensuite un constat, et je partagerai quelques réflexions. D'abord, une réaction, c'est que l'expérience que je fais est d'abord qu'avec toutes ces paroles, en première instance en tout cas, peu compatibles entre elles, l'Évangile, moi, ne me laisse pas en paix humaine. tout ceci ne me laisse pas serein dans la zénitude. Voilà, je suis interpellé par tout ça. Il y a du trouble, il y a de la compréhension, il y a une forme d'inconfort devant toutes ces paroles. Ensuite, un constat, c'est que ce qu'annonce Jésus, comme souvent dans l'Évangile, il y a deux niveaux pour l'accueillir. Hein. Il y a le niveau de qu'est-ce que ça dit aux communautés pour lesquelles ça a été écrit, alors, à telle ou telle époque, et sa valeur éternelle, et donc comment ça nous parle aujourd'hui. Et donc, en l'occurrence, le constat, c'est que ce qu'annonce Jésus est réaliste. C'est-à-dire que, notamment à l'époque de la rédaction des Évangiles, se dire chrétien n'était pas facile, n'était pas paisible, c'était pas un fleuve tranquille. Et les martyrs savent, en effet, de quoi il s'agit. Hein ? Et les premiers disciples ont bien été amenés à rompre des relations, à se mettre en difficulté, en conflit avec, pour le coup, leur écosystème juif de l'époque, hein, avec les cercles qui structuraient leur société, avec peut-être leur famille, leur synagogue, leur peuple. Et certains donc ont risqué leur vie jusqu'à la perdre au nom de leur attachement à Jésus-Christ. Donc le fait que d'être du Christ amène quelque chose qui n'est pas de la paix, sérénité psychologique, c'est une réalité. Ça a été une réalité pour tous ces martyrs, c'est une réalité encore pour un grand nombre de chrétiens encore aujourd'hui. Et puis enfin, quelques réflexions à propos, en l'occurrence, de trois contradictions apparentes auxquelles je vous propose un peu de nous frotter. Enfin, sinon, ce n'est plus la parole de Dieu si on prend que ce qui nous intéresse. Quoi. Enfin, ce qui est confortable, plutôt. Donc, la première parole que je vous propose un petit peu d'affronter, c'est « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » L'épée, le glaive, quoi. Alors, d'abord, je vous propose de faire une hypothèse, je pense crédible, que le projet et l'intention de Jésus n'est pas de mettre d'abord encore un peu plus de bazar dans les familles. On peut partir là-dessus. Jésus ne dit pas je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. Il n'a pas dit ça. Il a dit je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et dans certaines traductions, c'est le couteau, hein, dans la traduction grève. Et donc la différence est significative. Il n'a pas dit je suis venu apporter la guerre. Je suis venu apporter l'épée, le couteau. Donc en l'occurrence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la paix que Jésus n'est pas venu apporter, c'est la paix humaine. Celle dont on parlait tout à l'heure, la paix géopolitique, la paix sociale, la sérénité, la zénitude. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Il n'est pas venu apporter une paix temporelle, négociée, organisée, faite de sécurité et de confort intérieur. Ça, c'est laissé à l'autonomie de l'homme, à notre autonomie. En revanche, la paix qu'il est venu apporter, c'est la paix shalom. Celle sur laquelle on essaie de mettre des mots trop rapidement tout à l'heure. Celle qui est cet attribut proprement divin, cette plénitude transformante de l'ordre du salut. Et l'outil de Dieu pour cette paix shalom, c'est une épée, ou un couteau selon les traductions. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire dans la symbolique, dans la signification, dans la représentation de l'époque ? L'épée, et encore plus le couteau, dans l'Écriture, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu ou l'Esprit Saint. Ce qu'il faut entendre par la parole de Dieu ou l'Esprit Saint, en fait, c'est la puissance d'action et la puissance de création de Dieu. C'est la puissance créatrice de Dieu. Voilà. Et de fait, c'est ce qu'on voit notamment dans le livre de la Genèse, la puissance créatrice de Dieu, qui sépare la terre, les cieux, le masculin, le féminin, etc. Donc il ne s'agit pas justement d'une parole qui tue, d'une épée qui tue, hein, mais au contraire, d'une épée, d'un couteau, en fait, la puissance créatrice de Dieu qui donne la vie, qui vivifie, de fait, en distinguant, etc. Donc, je ne suis pas venu apporter la paix géopolitique, la zénitude, la paix relationnelle, la paix conjugale, la paix dans vos copropriétés. Vous n'êtes pas venu pour ça. Non. Il est venu pour apporter la puissance créatrice de Dieu, la puissance de vie de Dieu. Alors, rappelons-nous ce que dit justement la sagesse juive. C'est un apophtègme. Rabbi Joshua dit « Quand je serai dans l'au-delà, Dieu ne me demandera pas pourquoi n'as-tu pas été Moïse, mais pourquoi n'as-tu pas été Joshua ?» Je vous la refais. Rabbi Joshua dit « Quand je serai dans l'au-delà, Dieu ne me demandera pas pourquoi n'as-tu pas été Moïse, Mais il me demandera, pourquoi n'as-tu pas été Josué ? Cet apophthegme, qu'on trouve aussi chez les pères du désert, je pense qu'ils ont dû piquer dans la tradition juive, cet apophthegme indique en fait qu'il s'agit de vivre sa propre existence, sa propre vocation, sa vocation singulière, personnelle, celle de répondre à l'appel singulier que Dieu fait à chacun de nous. Voilà. Et il ne s'agit pas de rester dans, finalement, une vie qui serait celle imposée par ma généalogie, mon cadre social, les déterminismes, voilà, qui me traversent de toutes sortes et qui m'imposent toutes sortes d'identités. Cela passe au contraire par des séparations, par des détachements, par des renoncements, par des repositionnements qui vont faire sortir de la fusion avec les parents, avec la famille, d'emprise, de domination, ainsi de suite. Et c'est ça qu'opère l'épée, le couteau, symboliquement, et effectivement, en profondeur, la puissance créatrice de Dieu. Voilà. Et donc, autrement dit, le Christ est venu nous appeler à devenir nous-mêmes en plénitude, en laissant agir sa puissance créatrice en nous. Si je veux paraphraser donc ce « je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », je le paraphraserai par « je ne suis pas venu apporter la paix humaine, qui est votre initiative et votre responsabilité, mais je suis venu vous apporter la parole et le souffle créateur de Dieu ». C'est comme ça que je comprends en tout cas cette parole très, très, très forte, très puissante de Jésus. Autrement dit, Jésus ne se positionne pas en chef politique ou en formateur en gestion des conflits, mais juste en fils de Dieu, venu pour nous rendre proches le royaume et l'action de Dieu. Deuxième phrase à laquelle je vous propose de nous affronter, deuxième verset, c'est « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Donc cette phrase, le Christ l'a dit, plutôt nous la donne à ses disciples dans un contexte très particulier, puisque c'est le moment quand même où il parle de paix, alors que c'est le moment où il annonce sa mort et sa résurrection. C'est un peu contradictoire, d'une certaine façon, de parler de paix, sérénité, tranquillité, si on l'entend à un sens humain, alors qu'il est en train de parler, de mettre des mots sur la perspective de son départ tout proche, et donc de sa mort. Et donc c'est sa manière de donner cette paix qui nous fait traverser ce paradoxe. Ainsi, il ne donne pas sa paix comme le Père Noël distribue des cadeaux, comme si c'était extérieur à lui. En fait, cette paix, ce n'est pas quelque chose qui lui est extérieur à sa personne. Cette paix est sa personne. Et donc, il ne nous la donne pas en distribuant comme ça. En fait, il ne peut nous donner sa paix en plénitude qu'en se donnant lui-même totalement et radicalement. Et donc, en se donnant radicalement, ben, il nous donne l'un de ses principaux attributs, qui est la paix shalom, qui est le salut, que moi je mets en écho avec cette phrase « Je suis le chemin, la résurrection et la vie ». Et la façon que Jésus a de donner sa paix, c'est donc de se donner. En fait, il la donne, comme on dit aujourd'hui dans le monde des relations humaines, des psys, des coachs, enfin tous ces gens bizarres, tout ça. Il donne sa paix en position basse. En position basse, ça veut dire que il nous donne sa paix en situation choisie de serviteur. Et cette paix qu'il nous donne, ce n'est pas la paix des vainqueurs, ce n'est pas la paix que les vainqueurs imposent aux vaincus, ce n'est pas la paix que les puissants accordent aux plus faibles. Mais au contraire, c'est celle de Dieu qui choisit, de Christ, qui choisit de se mettre en position de serviteur en allant vers la mort. Et j'attire votre attention sur ce mouvement qui consiste justement à se laisser aller jusque dans la position de la mort, se laisser aller à la puissance recréatrice de Dieu. En fait, c'est ça en fait le chemin que fait le Christ, de se laisser à la puissance recréatrice de Dieu. Et c'est ce chemin qui nous ouvre. Donc, en sa thèse, cette paix du Christ est passée par l'expérience de la croix et du non-agir, c'est-à-dire de se laisser ressusciter. Et donc, ce « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne », pour la paraphraser, je dirais « je vous donne ma paix en vous montrant comment Dieu donne la vie jusque dans la mort ». Et enfin, le troisième verset pour lequel je propose de nous affronter, c'est Il semble y avoir un peu de contradiction. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Ce verset me paraît très important. Très important parce que c'est un verset anti qui les petits oiseaux. Parce que ce verset nous dit une réalité. Et si nous n'avons pas encore fait l'expérience, nous la ferons probablement avant la fin de nos jours. La paix suprahumaine, la paix que Dieu veut nous donner, a donc des amis. Voilà, s'il y a là un ami de la paix. Mais pas que. Et donc cette paix de Dieu peut ne pas être reçue. Elle peut ne pas être désirée. Elle peut ne pas être attendue. Et donc de fait, si cette paix est un don gratuit, immérité, gracieux, elle peut être, comme toute grâce que Dieu nous fait, elle peut être accueillie ou non. Et j'allais dire, grandeur de l'homme et tragique de la vie humaine, que de pouvoir avoir la liberté de refuser la grâce que Dieu veut nous donner. Et donc, c'est là qu'il y a une séparation qui s'opère entre les hommes, entre ceux qui ont accueilli le Christ et sa paix, ceux qui n'ont pas voulu l'accueillir. Et c'est peut-être ce que nous constatons quand on lit l'apôtre Jean qui nous dit voilà, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. En accueillant le Christ, on accueille évidemment la paix qui est un de ses principaux attributs. Et c'est la raison pour laquelle, notamment quand le Christ effectuait telle ou telle guérison, il disait « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Et ça veut dire quoi ? Ta foi t'a sauvé, va en paix, c'est tu m'as accueilli, et donc m'accueillant, tu peux recevoir ma paix. En fait, la paix du Christ se communique à ceux qui croient en lui. En synthèse de cette deuxième partie, nous pouvons poser que la paix, donc suprahumaine, nous vient radicalement de Dieu. Elle est de nature divine. Elle était annoncée par les prophètes. Elle entoure la naissance de Jésus. Elle est dans le chant de Zacharie, vous savez qu'on trouve dans le cantique de Zacharie. Les bergers en témoignent. Le cantique de Siméon l'annonce. Et maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur en paix, car mes yeux ont voulu celle que tu préparais la face des peuples. Et Jésus renverra dans la paix ceux qu'il aura guéris par un « va en paix ». Voilà. Et c'est par un « paix à vous » qu'il se présente après la résurrection à ses disciples. Donc pour résumer, cette paix de Dieu, elle n'est pas un sentiment ni une tranquillité paisible. Premièrement, ça, c'est l'autre paix, celle qui est notre responsabilité de notre autonomie. Deux, elle ne se définit donc pas par l'absence de conflit ou de tension. Trois, elle ne dépend pas des circonstances extérieures, à la différence de la première paix. Elle serait plutôt à en lire les Écritures, la personne du Christ, un soutien, un mur, un appel, un accomplissement qui se réalise dans la relation avec Dieu, puisqu'elle vient de Dieu. Et donc, elle est don gratuit du côté de Dieu, elle est accueil de notre côté à nous, pauvres humains, modulo la conversion qui va bien. Alors, à ce stade, avant de passer à la troisième partie, Deux petites pastilles concrètes. Je vous invite à vous rappeler, quand vous communierez au corps du Christ, ou bien quand vous irez adorer le Saint-Sacrement, ou bien quand vous prierez la parole de Dieu, ou bien quand vous recevrez le sacrement de la réconciliation, enfin, voilà. Rappelez-vous qu'en réalité, c'est lui qui vient à vous. Et qu'en venant à vous, quand vous venez vers lui, communier, recevoir le sacrement, prier, etc., en fait, en venant vers lui, il vous adresse une parole qui est « paix à vous ». Puisque c'est la première parole qu'il dit à ses amis. Donc rappelez-vous de ça, quand vous vous approcherez de lui, dans le sacrement, de lui, dans la parole, il vous adresse cette parole « paix à vous ». Deuxième pastille, rappelez-vous bien de ça. Tout au long de l'année. Deuxième pastille, c'est le Notre Père. Quand vous direz le Notre Père, sentez combien cette prière à chaque verset parle de cette paix suprahumaine. Alors en fait, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous racontez ? Puisque pas une seule fois, il est question de paix. Mais en fait, on voit que l'accomplissement du Notre Père, c'est la paix. Et on peut prendre tous les versets, hein, Notre Père qui est aux cieux. La paix suprahumaine, elle vient bien des cieux. C'est pas une paix qui nous vient de la terre. Que ton règne vienne. Ben oui, le règne de Dieu, on sait, c'est son alliance, c'est la paix. Que ta volonté soit faite. Ben oui, la volonté qu'il a pour nous, c'est qu'on accueille sa paix. Donne-nous notre pain de ce jour. Ben oui, le pain qu'il nous donne, c'est cette paix. Pardonne-nous nos offenses. Ben oui, il faut nous convertir pour accueillir cette paix. Ne laisse pas entrer en tentation. Ben oui, parce que ça nécessite du combat, la paix. Et en fait, tout ça pour dire que le fruit de l'accomplissement des paroles du Notre Père, c'est cette paix shalom. Donc je vous invite à, peut-être tout au long de cette année, à dire les paroles du Notre Père dans cette perspective que, en fait, en rentrant dans cette prière du Notre Père, en fait, à chaque verset, je rentre un petit peu plus dans le mystère et la profondeur de cette paix que Dieu veut nous donner. Alors, il me reste 10 minutes. Je n'ai pas entendu de réponse, donc je considère que c'est oui. Dernière partie, du coup, maintenant qu'on voit mieux, j'espère que vous voyez mieux, malgré forcément la limite de tous les mots que j'emploie, de quelle paix il s'agit par rapport à la paix humaine, comment accueillir cette paix suprahumaine ? Comment recevoir cette paix qui est cet attribut divin ? Alors là, je nous propose là, de nous tourner vers l'Église, vers la grande tradition de l'Église. Voilà. Alors l'Église, elle a un atout qui n'a pas de prix, c'est qu'elle est plurielle. Pour le dire autrement, il existe plusieurs demeures dans la maison du Père. Et selon les époques, les charismes des fondateurs, en fait, de multiples routes ont été défrichées et tracées par des hommes et des femmes, et qui constituent pour nous aujourd'hui des chemins, des voies, V-O-I-E-S, que nous pouvons emprunter pour avancer vers cette paix que Dieu veut nous donner. Alors je vous propose, le temps manque, donc je ne pourrai détailler aucune d'elles, sauf peut-être une. Voilà. Il y a 4 voies, V-O-I-E-S, dans la grande tradition de l'Église, qui sont des voies sûres pour nous conduire vers cette paix. Il y en a d'autres, évidemment, hein, mais des voies principales. La voie des Pères du désert, la route carmélitaine, la voie bénédictine et le chemin franciscain. Je vous le refais, les Pères du désert, les bénédictins, le Carmel et la voie franciscaine. Pourquoi ces 4 voies ? Encore une fois, il n'y a rien, ils n'ont pas le monopole. Hein, c'est la grande tradition de l'Église, quoi. Pourquoi ces 4 chemins ? Parce que ce sont des chemins solides qui ont traversé les siècles, qui ont nourri des millions et des millions de chrétiens qui continuent encore à le faire. Et parce que dans leur ADN, c'est ce que je vais juste essayer de mentionner en quelques minutes, c'est que dans l'ADN de ces 4 grandes traditions, Père du désert, le Carmel, bénédictin, franciscain, il y a une recherche, une soif explicite de la paix. Explicite de la paix. La paix est quelque chose qui est consubstantiel à chacune de ces 4 voies. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut être extrêmement aidant pour nous. D'abord, la voie du désert, la voie des Pères du désert. Alors, je vais pas détailler, vous pourrez trouver ça dans des livres. En particulier, j'ai écrit 3 livres sur les Pères du désert, donc vous pourrez retrouver des choses. Juste pour recaler, on est au 4e siècle. Après les persécutions, etc., le christianisme, à partir du 4e siècle, se mêle au monde, devient une religion de masse, et c'est là qu'un certain nombre de chrétiens, mus intérieurement, décident en fait de quitter le monde pour s'installer dans le désert et vivre quitter la vie mondaine, disons, et vivre de solitude, de prière, de travail, de contemplation, de silence. Et ils vont s'installer dans les déserts actuels d'Égypte, de Palestine. C'est ceux qu'on appelle les pères ou les mères du désert. Et leur objectif, je vais à l'essentiel plus exactement, leur objectif c'est de vivre l'ézikia. L'hésychasme en français. L'hésychia en grec. L'hésychia, H-E-S-Y-C-H-I-A. L'hésychia, on peut le traduire par paix, mais la paix divine, hein, pas la paix. Et ce mot désigne la paix venant de l'union à Dieu. L'hésychasme, c'est la paix qui vient de l'union à Dieu. Voilà. Et donc, ils ont quitté la vie mondaine pour vivre radicalement l'évangile, pour rechercher l'hésychia. Donc, vous voyez, ce n'est pas un truc à part, un plus, une option. C'est le cœur de leur recherche spirituelle. Alors, pour eux, justement, cette recherche d'hésychasme, cette recherche de la paix, c'est à la fois une modalité, une condition, une finalité. Une modalité, puisque cette recherche de la paix, elle va passer par un certain nombre de méthodes, d'attitudes, d'actions, sur lesquelles je reviendrai. C'est une condition aussi parce que c'est à partir de cette paix qu'on peut, selon les pères du désert, finalement habiter sa vie, entrer dans sa vie et porter du fruit. Et enfin, c'est une finalité, parce que cet état d'hésychasme, qui se caractérise par la paix, voilà, eh bien, c'est le repos en Dieu, c'est l'union en Dieu. Donc tout ça pour dire, si ce que je dis est peut-être un peu confus, retenez que les pères du désert, l'objectif de leur vie, c'était l'hésychasme, c'était la paix par l'union à Dieu. Donc, trois pratiques, je suis obligé de mettre en relief les plus significatives. Il y en a plein d'autres, encore une fois, vous pourrez trouver dans tel ou tel livre. Mais les trois pratiques les plus significatives, c'est 1, c'est l'ascèse. 2, le combat spirituel. 3, la prière du cœur. Donc l'ascèse, pour le dire autrement, c'est la sobriété, la discipline. Sobriété matérielle, sobriété de l'ordre de la juste mesure. Si on veut résumer drastiquement l'ascèse pour les pères du désert, c'est la juste mesure. Deuxièmement, le combat contre les pensées. Le combat contre les pensées, qu'on appelle dans la tradition monastique la garde du cœur. Je cite un apophtegme. Abba, que dois-je faire pour être en paix? Et Abba répond, combat les pensées qui viennent de toi-même. Donc le combat contre les pensées, pour les pères du désert, qu'on retrouve dans toute la littérature monastique, c'est le combat contre toutes nos pensées qui traversent tous nos esprits, de les laisser à distance pour rentrer dans notre cellule intérieure, dans notre cœur. Donc, l'ascèse, la sobriété, le combat intérieur, combat contre les pensées, et enfin, troisième modalité pour approcher cette paix, donc la prière du cœur. Certains d'entre vous connaissent peut-être, pratiquent peut-être même la prière du cœur. On le trouve chez les pères, chez Évague, Macaire, Antoine, voilà. La paix découle de la prière du cœur. C'est-à-dire que la prière du cœur qui consiste, vous savez, à répéter une parole courte de l'Écriture avec le nom de Jésus. Voilà. Et répétant, vocalement, la plupart du temps, mentalement, voilà, une prière courte, peut-être simplement Jésus, ou Seigneur Jésus, aie pitié de moi, ou aie pitié de moi, pécheur. Il dit que c'est une pratique qui fait rentrer, justement, dans le mystère et dans le don de cette paix que Dieu veut nous faire. Voilà. Donc, les pères du désert, c'est vraiment eux qui ont fondé toute la tradition monastique, religieuse. Hein, donc, c'est là qu'on trouve les fondamentaux, cette recherche de l'hésychasme, de la paix. Ils sont allés au désert pour ça. Voilà. Deuxième voie de laquelle nous pouvons nous inspirer, c'est la voie VOE carmélitaine. Donc, on dit la voie du désert, la voie des pères du désert, hein, ce que les pères du désert mettent en relief pour avancer vers cette paix, c'est donc ascèse, prière du cœur, combat intérieur. Dans la voie carmélitaine, l'objectif ultime, c'est l'union à Dieu. Dans la tradition du Carmel, c'est l'union à Dieu. Et on trouve chez ce qu'on appelle les grands maîtres du Carmel, hein, cette affirmation, la paix, c'est ce que Dieu répand dans l'âme qui s'est vidée d'elle-même. Là, on a tout de la tradition du Carmel. La paix, c'est ce que Dieu répand dans l'âme qui s'est vidée d'elle-même. Donc la paix, c'est ce que Dieu répand, c'est-à-dire que c'est un don de Dieu qui vient faire sa demeure en notre cœur, mais pour ça, il faut que je lui ai laissé de la place. C'est cette conversion, cette transformation que j'évoquais tout à l'heure. Et alors, c'est quoi là, j'allais dire, la modalité, comme on a vu l'ascèse, la prière du cœur, le combat intérieur? La voie royale dans la tradition du Carmel, c'est l'oraison silencieuse. L'oraison silencieuse, c'est la voie royale pour entrer dans cette paix, pour faire que Dieu puisse se répandre en nos âmes. Voilà, ça, l'oraison silencieuse, c'est la marque de la tradition du Carmel. Alors évidemment, ça passe par des tas d'étapes, les sept demeures, la nuit obscure, enfin bref, on n'a pas le temps. Tout ça pour dire que le chemin est quand même jalonné d'embûches, mais avec la grâce de Dieu et notre détermination, la pente est raide, mais la route est droite. Cette expérience de la recherche de la paix qui est donnée dans nos âmes est très bien décrite par Jean de la Croix, par Thérèse d'Avila, voilà, par la petite Thérèse, hein. Et notamment, elle nécessite, pour le coup, une forme de passivité. Alors, dans notre mode d'aujourd'hui, la passivité, c'est assez mal vu. Or, dans la tradition du Carmel, il n'y a pas de vie spirituelle et d'union à Dieu dans l'oraison s'il n'y a pas de passivité de l'âme. Et la passivité, ce n'est pas de l'indifférence ou j'en ai rien à faire. La passivité, c'est je me laisse faire. Et tout à l'heure, j'insistais beaucoup sur, et on le voit au moment de la mort, la façon, justement, cet abandon, justement, à la puissance créatrice de Dieu. Donc, la voie royale dans la tradition du Carmel, c'est l'oraison silencieuse qui passe par une forme de passivité. Troisième élément important dans la tradition du Carmel, donc l'oraison, la passivité, c'est le combat. Voilà, le combat. Et Thérèse, la petite Thérèse, Thérèse d'Enfant Jésus, a beaucoup écrit sur le combat. On ne peut pas accueillir la paix sans combat. Alors ça peut trancher avec l'image qu'on a de la carmélite qui est là, abîmée dans la prière, enfin, etc. Pour elle, il n'y a pas de paix possible, d'accueil de la paix, s'il n'y a pas de combat spirituel. Elle en témoigne voilà, de façon très charnelle, presque. Pas le temps de citer. Et dernier point dans la voie du Carmel, ce que nous disent là aussi tous les grands maîtres du Carmel, c'est ce que j'évoquais tout à fait d'ailleurs au début, sur ce, nous sommes appelés habités à la fois par la paix, mais aussi par la mort, enfin, la vie et la mort, Eros et Thanatos, etc., c'est qu'il y a, et là aussi la petite Thérèse et la grande Thérèse en témoignent, dans nos âmes, la coexistence possible, et le père Richard le disait dans son introduction, en la coexistence entre la paix et la souffrance. C'est pas parce que je suis dans cette paix qui vient de Dieu que tout va bien, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. C'est peut-être d'ailleurs ça la marque de la paix qui vient de Dieu, c'est que je peux être dans la difficulté, dans la souffrance, dans la douleur, et en même temps éprouver cette paix. Et juste pour illustrer cela, petite Thérèse écrit à sa sœur Céline, « J'avoue que ce mot de paix, donc elle parlait évidemment de la paix surnaturelle, j'avoue que ce mot de paix me semblait un peu fort. Mais l'autre jour, en y réfléchissant, j'ai trouvé le secret pour souffrir en paix. Qui dit paix ne dit pas joie, ou du moins joie ressentie. Pour souffrir tout en étant dans la paix, il suffit de vouloir ce que Jésus veut. » On pourrait reprendre ça. En fait, ça nous dit combien, en fait, cette paix de Dieu, on la reçoit quand justement on est dans de l'ordre de « que ta volonté se fasse ». Que la volonté soit faite ou qu'elle se fasse en moi et toutes tes créatures, pour reprendre les mots d'Ignace. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je dois avancer. Je me tourne avec anxiété vers le père Richard. J'ai 5 minutes. Merci. Troisième voie, vous voyez, dont c'est la voie bénédictine, dont l'objectif explicite, encore une fois, est la paix. Vous voyez, les pères du désert, c'est l'hésychasme. La voie du Carmel, c'est la paix par l'union transformante dans l'oraison silencieuse. La troisième voie, qui est donc la voie bénédictine. Donc, là, on est au VIe siècle. Je ne refais pas l'histoire de l'ordre bénédictin, on n'a pas le temps. Mais juste pour vous dire que la règle de vie des moines bénédictins, qui existe toujours et qui s'est répandue aussi aux cisterciens, hein, voilà, Le pape François dira de la règle de vie bénédictine, je cite, « Elle est un excellent guide pour un engagement conscient et concret en faveur de la paix. » On a vu que les pères, c'est les icasmes, on a vu la voie du Carmel, c'est voilà, la paix par l'union à Dieu. La devise des bénédictins, c'est Pax. On ne peut pas faire plus direct. Vous voyez, je n'ai pas choisi ces quatre voies pour le plaisir. La devise des bénédictins, c'est Pax. Voilà. Et de fait, Pax, ou quies, voilà, orne le frontispice de tous les monastères qui se réclament de Saint-Benoît. Et donc pour Saint-Benoît, la paix n'est pas simplement l'absence de conflit. C'est ce qui résume, ce qui doit résumer la vie intérieure du moine bénédictin. Voilà. C'est une paix qui est reçue du Christ, bien sûr, et qui doit se répandre dans l'intelligence, le corps et la volonté. Alors, dans la tradition bénédictine, la paix, cette paix qui vient de Dieu, elle est un objectif, un fruit et une condition. Elle est un objectif en tant que la recherche de la pax, de la paix suprahumaine, est associée à celle de Dieu. Voilà. Et donc, chercher Dieu, chercher la paix, c'est pareil. C'est logique, puisque c'est l'alliance que Dieu veut et que le Christ se donne. C'est un objectif, mais c'est un fruit. C'est un fruit parce que la paix est un fruit de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, dans la tradition, ce fruit, en tout cas dans la tradition bénédictine, eh bien, on peut l'accueillir en exerçant eh bien, toute la règle bénédictine, donc l'obéissance, l'humilité, le travail, la prière liturgique. Donc c'est le fruit d'une certaine discipline. Et enfin, c'est une condition, parce que la paix est propice à la recherche de Dieu. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très abouti, la conception de la paix chez les bénédictins. C'est un objectif, plus j'avance dans la paix, plus j'avance vers Dieu. C'est un fruit. Fruit de, effectivement, ça m'est donné par l'Esprit Saint, mais au prix de cette discipline, cette stabilité de vie qui caractérise les bénédictins, et c'est une condition parce que la paix est aussi favorable à la recherche de Dieu. Et puis, quatrième voie que je souhaiterais souligner, là aussi, c'est la voie, donc la voie franciscaine, parce que cette voie explicitement fait de la paix vraiment un des fondements. Donc là, on est au XIIe siècle, on n'a pas le temps de refaire un petit rappel historique, mais juste pour vous dire que François, vous le savez, François d'Assise, est considéré comme un apôtre, l'apôtre de la paix. Et il avait cette réputation d'attirer à lui, d'être un faiseur, pour le coup, de paix. Il dit d'ailleurs, dans son testament, « Le Seigneur m'a révélé que nous devions saluer ainsi, que le Seigneur te donne la paix. » C'est intéressant parce qu'en fait, il reprend là juste ce qu'on trouve dans Saint Paul, et puis avant lui, dans le Christ, etc. Et on doit toujours dire « Le Seigneur te donne la paix ». Et vous savez, la devise des franciscains, c'est « Pax et bonum ». Voilà. Donc là, chez les franciscains, voyez, on a vu chez les bénédictins, on était beaucoup sur la stabilité, la discipline de vie, travail, obéissance, humilité. Chez les carmélitaines, plutôt l'oraison silencieuse. Père du désert, on est dans la 16, le combat intérieur, voilà, la prière du cœur. Là, on sera plutôt sur quelque chose de l'ordre de réconciliation, dialogue fraternel, vie fraternelle. Ça sera ça, ce qui va être les caractéristiques peut-être plus marquées. Pauvreté, pardon, dialogue. L'heure tourne, ça fait 1h05 que je parle, donc je vais conclure. Moi, j'ai compris en préparant cette conférence que le premier devoir d'un chrétien, c'était pas d'être parfait. Ça, je le savais déjà un petit peu avant. Mais c'est d'être en paix. Le premier devoir du chrétien, c'est d'être en paix. Et en cela, je rejoins ce que Eti Hilsum écrivait en 1942, donc peu de temps avant sa mort. Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix. Et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans le monde. Voilà, c'est très beau cette idée de clairière. Donc c'est un devoir de chercher cette paix de Dieu, pour soi bien sûr, mais on sait bien qu'être chrétien, c'est pas que pour soi, c'est pour l'Église, c'est pour le monde. Voilà. Alors peut-être pour finir cette conférence, voyez, comme d'habitude, comme la gratitude, j'ai ouvert plein de portes. Puis voilà, vous verrez au fur et à mesure, mais c'est celle qui vous parle, celle que vous voudrez emprunter. Voilà. Je souhaiterais vous inviter à prendre attache, à vous attacher à une personne et à un passage de l'Évangile. Vous vous rappelez le passage de l'Évangile. Donc vous attachez à une personne et un passage de l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, vous allez le voir, l'un et l'autre porteurs de cette paix suprahumaine que Dieu veut nous communiquer. La personne à laquelle je vous invite à vous attacher, c'est Séraphin de Sarov. Vous connaissez peut-être Séraphin de Sarov. Si vous ne le connaissez pas encore, découvrez-le. Si vous le connaissez déjà, fréquentez-le encore plus assidûment. Séraphin de Sarov est un don de Dieu, dont l'un de ses nombreux charismes est cette paix qui vient de Dieu. Voilà. Donc c'est un saint russe, voilà, qui est les plus connus, les plus populaires, non seulement parmi les orthodoxes, mais qui est vénéré chez les catholiques. Hein. Il est vénéré chez les catholiques. Et il a beaucoup de paroles sur la paix. Il était, voilà, il avait un charisme de paix incroyable. Voilà. Je le cite, « Si l'homme ne méprise pas les biens de ce monde, il ne peut pas avoir la paix. » Ça, c'est la dimension ascèse des pères du désert. La paix s'acquiert par des combats. Ça, c'est la dimension combat contre les pensées des pères du désert. Rien ne contribue plus à la paix intérieure que le silence et, si possible, la conversation incessante avec soi-même. Nous devons donc nous concentrer sur nos pensées, nos désirs et crier avec l'Église « Seigneur, donne-nous la paix ». Ça, c'est la prière du cœur. Tout ça pour dire que Séraphin de Sarov, en fait, est un père du désert quasi contemporain. Enfin, il a été siècle d'âme. Donc ça, voilà, je vous invite à faire connaissance avec Séraphin de Sarov, dont, voilà, qui avait reçu ce charisme particulier de cette paix de Dieu. Et puis le passage avec lequel je vous suggère de vous attacher tout au long de cette année, c'est un passage de l'Évangile en Luc 4, 28, 30. Luc chapitre 4, 28, 30. C'est un passage, en fait, qui nous montre l'attitude du Christ qui est, pour le coup, dans l'hésychasme, qui est dans cette paix de Dieu. Donc dans cet épisode, on est Luc chapitre 4, on est au début, en fait, de sa vie publique. Et dans cet épisode, Jésus se trouve dans la synagogue de Nazareth. Il parle et son propos est mal reçu. Il est mal entendu, mal accueilli, à tel point qu'on veut sa mort. On voulait déjà sa mort. Et la fin du récit nous dit ceci, je cite, « Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. » Voilà, il me semble que cette dernière phrase est très significative. La foule, l'agressivité, Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Et de fait, cette paix intérieure, celui qui vit dans la paix du cœur, en plénitude chez le Christ, voilà, qui était agressé, contesté, violenté, il passe au travers de cette foule et travers cette menace sans rien dire, sans montrer aucune agressivité, parce que son cœur est pleinement rempli de cette paix shalom. Voilà. Un cœur silencieux. Voilà, et nous avons dans le Christ l'image de ce qu'est cette paix humaine. Donc je vous invite à méditer ce passage de l'Évangile, Luc 4, 28, 30. Paix à vous.
Merci bien. Voilà. J'imagine qu'il y a quelques-uns qui ont des questions.